Radio Libertaire 89.4. Oui, Radio Libertaire.
Temps. Le Ferry Club, bonjour.
La Radio Libertaire 89.5.
Oui.
Et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement. Ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. drapeau noir.
Léo Ferré à Charles Baudelaire. Si je vous disais tu, on me prendrait pour qui ? On dirait, celui-là, il se perche là-haut, dans les nuées, avec ses ailes d'albatros qui donneraient plutôt vers le corbeau. Si je te disais vous, tu deviendrais encore plus froid dans ta dernière terre et tu m'appellerais « Léo, viens, allons voir les putes du boulevard Quinet. Ce n'est pas loin de chez moi, deux pas à peine. Allons même au monocle, cette boîte, où celles qui sont trop gaies s'en vont se faire une nouvelle virginité qui pèsera pas lourd dans les 4 heures du matin au bras d'une saphique d'occasion. Ils t'ont pillé, Baudelaire. Ils t'ont traîné dans leur morale. Ils disent que tu avais la vérole et que tu en es mort. Ils disent tant de choses. Tant de choses dans les manuels de littérature, je dis bien manuel, avec tout ce que cela comporte d'inversion intellectuelle. Ils sont tous invertis ce jour. Ils pensent en reculant. Ils préfèrent qu'on les surprenne par derrière pour ne pas voir avec leur légion d'honneur les journaux qui vont de l'avant comme des écrevisses, leur culture avec un grand C comme... J'ai le sentiment qu'il n'y a plus grand-chose à découvrir au club des métaphores. La poésie t'a muselé dans le génie étiqueté, inodore, avec de beaux et cons discours qu'on doit faire à ton propos et lors d'une pâle distribution de prix au lycée de Nevers. Rimbaud nous a quittés par une porte de secours, il savait que derrière il devait y avoir la vraie vie. Breton a fait une fausse sortie. Il l'a dit dans l'ambulance qui transportait son urgente dépouille de Cahors à Paris. Il t'aimait bien. Je pense qu'il aurait voulu écrire des alexandrins, mais un peu trop comme Valérie, son ami qui est parti, lui, d'Académie française. Apollinaire a pris de toi ce qu'il pouvait et puis a réinventé le verbe. Il nous a laissé Aragon, qui a bien du talent. C'est tout. Quand tu me manques, je te mets en musique, humblement. C'est vraiment la seule rose que je puisse apporter sur ta tombe. À bientôt.
On dirait ton regard d'une vapeur couvert. Ton œil mystérieux est-il bleu, gris ou vert? Alternativement tendre, rêveur, cruel. Réfléchis l'indolence et la pâleur du ciel. Tu rappelles ces jours blonds, tièdes et voilés, qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés. Quand, agité d'un mal inconnu qui les tord, les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort. Tu ressembles parfois à ces beaux horizons qu'allument les soleils des brumeuses saisons. Comme tu resplendis, paysage mouillé, qu'enflamment les rayons tombant d'un ciel brouillé. Femme dangereuse au séduisant climat, adorerai-je aussi ta neige et vos frimas? Et saurais-je tirer de l'implacable hiver des plaisirs plus aigus que la glace et le fer? Ma belle ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir, et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir qu'un caveau plus vieux et qu'une fosse creuse, quand la pierre opprimant ta poitrine peureuse et tes flancs assouplis un charmant nonchaloir empêchera ton cœur de battre et de vouloir, et tes pieds de courir leur course aventureuse. Le tombeau confident de mon rêve infini, car le tombeau toujours comprendra le poète, durant ces longues nuits d'où le somme est banni, te dira que vous sert courtisane imparfaite de n'avoir pas connu ce que pleurent les morts, et le ver rongera ta peau comme un remords. Nature, en sa verve puissante, concevait chaque jour des enfants monstrueux. J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, comme au pied d'une reine, un chat voluptueux. J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme et grandir librement dans ces terribles jeux. Devinez si son cœur couvre une sombre flamme aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux. Parcourir à loisir ces magnifiques formes, ramper sur le versant de ses genoux énormes. Et parfois en été, quand les soleils malsains lassent la font s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible au pied d'une montagne.
Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux, l'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jetée au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la Margelle. Je l'oublierai si je puis. Au nom selon des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse. J'implorais d'elle un rendez-vous le soir sur une route obscure et livain. Folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi je l'aimais trop, voilà pourquoi je lui dis: sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre, un seul parmi ces ivrognes stupides songea-t-il dans ses nuits morbides à faire du vin à linceul. Cette crapule invulnérable, comme les machines de fer, jamais ni l'été ni l'hiver n'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, son cortège infernal d'alarmes, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chaîne et d'ossements. Me voilà libre et solitaire, je serai ce soir ivre-mort, alors sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre. Et je dormirai comme un chien, le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la Sainte Table.
Charles Baudelaire par Léo Ferré. Nous avons écouté, juste avant que je parle, Spleen, le texte Spleen, suivi de Ciel brouillé, Remords posthumes, La géante et à l'instant même Le vin de l'assassin. Alors Charles Baudelaire, jeudi dernier, marquait en fait le 150e anniversaire de sa mort. Et Baudelaire et Léo, c'est quelque chose quand même, faut le dire. Charles Baudelaire, il est né le 9 avril 1821 au 13 rue d'Hautefeuille à Paris. Sa mère, Caroline Dufay, avait 27 ans, son père en avait 62. Père qui meurt à l'âge, lorsque Baudelaire a 6 ans. Un an plus tard, sa mère se remarie avec le chef de bataillon Jacques Aupic, hein, lequel incarnera à ses yeux les entraves à tout ce qu'il aime, sa mère, la poésie, le rêve, le beau désordre, en fait. Baudelaire mène une jeunesse en opposition aux valeurs bourgeoises incarnées par sa famille. Il passe son baccalauréat au lycée Saint-Louis en fin d'année et est reçu in extremis. Il a redoublé quelques classes avant, hein, attention. Il fréquente l'amour, il s'éprend de Jeanne Duval. Il fréquente Paris, il y est un dandy endetté, très rapidement placé sous tutelle judiciaire. Il commence donc à bosser un peu et il fait quelques critiques d'art et du journalisme un petit peu. Il défend quelques grands créateurs de son époque, Delacroix ou encore Balzac. En 1843, il découvre les paradis artificiels avec son ami Louis Ménard. Il goûte à ce qu'on appelle encore la confiture verte, à savoir le haschich. Il renouvellera cette expérience occasionnellement en participant notamment aux réunions du club des haschichins. Sa pratique d'une autre drogue, l'opium, est elle en revanche plus longue. Il en fait un usage thérapeutique et ce principe, l'opium, est prescrit pour qu'il puisse combattre avec les maux de tête et les douleurs intestinales qui sont consécutives à une syphilis qu'il a probablement, dit-on, contractée vers 1840 durant sa relation avec la prostituée Sarah Lalouchette. En 1848, il participe aux barricades, la révolution de février instituant la liberté de la presse. Il fonde alors une gazette bien éphémère qui s'appellera Le Salut Public. Elle n'ira pas d'ailleurs au-delà du deuxième numéro. Baudelaire se voit reprocher son style d'écriture et le choix de ses sujets. Dès l'apparition des Fleurs du Mal en 1857, il y a un certain Gustave Bourdin. J'ai écorché, j'aurais pu l'écorcher encore pire. Gustave Bourdin y réagit avec virulence dans les colonnes d'un journal dans lesquels on réagit encore avec virulence de nos jours qui s'appelle Le Figaro. Le 5 juillet 1857, il écrit: il y a des moments où l'on doute de l'état mental de M. Baudelaire. Il y en a où on ne doute plus. C'est la plupart du temps la répétition monotone et préméditée des mêmes choses, des mêmes pensées. L'odieux y côtoie l'ignoble, le repoussant s'y allie avec l'infect. C'est le Figaro en 1857, on pourrait comparer avec aujourd'hui. Cette appréciation d'ailleurs va donner un peu le la à l'image, à l'idée, au jugement que l'on porte sur Baudelaire à cette époque. Moins de 2 mois après l'apparition des Fleurs du Mal, elles sont poursuivies pour, je cite, « offense à la morale religieuse » et « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ». Oh, c'est un programme. Il est condamné à une forte amende de 300 francs. L'éditeur, Auguste Poulet-Malassi, s'acquitte pour sa part d'une amende de 100 francs et doit retrancher 6 poèmes, quick, dont le procureur général, M. Ernest Pinard, a demandé l'interdiction. Mais d'autres jugements sont portés sur l'œuvre de Baudelaire, notamment Victor Hugo, à qui il a adressé un recueil des Fleurs du Mal. Il lui écrit ceci. « Vos Fleurs du Mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Permettez-moi de finir ces quelques lignes par une félicitation. Une des rares décorations que le régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir. Ce qu'il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu'il appelle sa morale. C'est là une couronne de plus. » En 1862, Baudelaire est candidat au fauteuil d'Eugène Scribe à l'Académie française. Il est parrainé par Sainte-Beuve et Vigny, mais il obtient 0 voix et se désiste. Le 28 avril 1864, il est très endetté, il part pour la Belgique et il s'y installe. Lors d'une visite à l'église Saint-Loup de Namur, Baudelaire perd connaissance. Cet effondrement est suivi de troubles cérébraux, en particulier d'aphasie. À partir de mars 1866, il souffre d'hémiplégie. En juillet de la même année, on le ramène à Paris. Il est aussitôt admis dans la maison de santé du docteur Duval, un aliéniste réputé. Et c'est là qu'il meurt, rongé par la syphilis, le 31 août 1867 à 11h du matin. Le lendemain, il est inhumé au cimetière de Montparnasse, 6e division, dans la tombe où repose son beau-père, tant détesté, le général, devenu, oui, général Aupic, et où sa mère le rejoindra 4 ans plus tard. Vous écoutez le Ferré Club sur Radio Libertaire.
Pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur des gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Au large, tout au large, quand les soleils marins teignaient le feu.
J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient le feu, et que leurs grands piliers
majestueux rendait pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles enroulant les images des cieux mêlés d'une façon solennelle mystique les tout-puissants accords de leur riche musique au soleil du couchant reflété par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur des vagues des splendeurs et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le front avec des palmes. Et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques.
Il dirige les trucs avec lesquels il se prend son plaisir. Il dirige Péléas, il dirige Parsifal. Il dirige de moins en moins Schoenberg. Vous comprenez? Parce que c'est pas de monde. Hein? Bien vrai, quoi. Schoenberg est un type, vous savez que Schoenberg est un type qui avait orchestré, pour gagner sa vie, vous savez combien? Il avait orchestré 4000 opérettes. Opérettes qu'on connaîtra jamais. C'était un type qui travaillait. Et un beau jour, il a découvert ça, il a inventé la dodécaphonie. Bon, la musique, elle doit faire pleurer. L'art doit faire pleurer. Si je dis ça du haut d'une cathèdre, c'est parce que c'est vrai, et c'est d'autres l'ont dit avant moi, donc j'invente rien. La musique, c'est triste, la beauté, c'est triste, ça doit faire pleurer. Si ça fait rigoler, si ça fait gratter la tête, ou si ça fait sortir les snobs de leur cabinet, c'est pas de la musique, c'est d'autres choses. Voilà, c'est tout.
La musique souvent me prend comme une mer vers ma pâle étoile. Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile la poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Sans vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre, le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autrefois calme plat, grand miroir de mon désespoir.
Extrait de l'émission « C'est extra » 1991 par Jean Chouquet, Léo Ferré. La musique me prend comme la mer. Ça, c'est vraiment lui. Et ça me fait plaisir qu'il ait pu écrire une poésie pareille parce qu'il devait aimer la musique. À ce moment-là, les gens qui aimaient la musique, comme Baudelaire, où écoutaient-ils de la musique? Comment faisaient-ils? Aujourd'hui, on est les princes de l'écoute. Lui, il allait où? Quelle radio il allumait? Qu'est-ce qu'il faisait, Baudelaire? La musique, il l'inventait, dans ses paroles, dans son style et dans ses alexandrins. Et c'était ça, la musique de Baudelaire. Il aurait voulu connaître la musique et je pense qu'il ne l'a pas connue très bien, parce que les gens qui, à ce moment-là, écoutaient de la musique, les gens qui écoutaient Mozart ou Beethoven, avant Baudelaire, bien sûr, ils allaient dans des concerts organisés par des seigneurs. Et s'il n'y avait pas eu ces seigneurs, on ne connaîtrait ni Mozart, ni Beethoven. Baudelaire a souffert beaucoup, je pense, et c'est tellement loin tout ça. On n'a pas connu. On sait des choses, on a écrit des choses, mais il a sûrement souffert. Et dans quelles conditions il a souffert, je ne sais pas. Mais il avait cette revivance de reviviscence de la musique qu'il écrivait et ça arrangeait tout chez lui, je crois. Mais je ne sais pas dans quelles conditions il a souffert. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans sa vie de souffrance, ça me ferait trop de peine, alors je ne pense pas à ça. Les gens qui écrivent sur les poètes qui ont vécu ci, qui ont vécu ça, et qui ont fait ci, et qui ont fait ça... Un jour, j'ai lu un livre de Sartre sur Baudelaire, avec certaines vérités bien sûr, mais très méchant. C'était très méchant. Et il m'a convaincu à un moment. À un moment, je ne pouvais plus voir Baudelaire parce que Sartre disait si et que c'était ça. Et puis, je suis revenu à mon amour de Baudelaire. Et je n'aime pas que Sartre ait parlé comme ça d'un tel poète. Baudelaire, c'est le style des génies. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est vrai, on ne peut pas dire comment il a fait, comment il n'a pas fait. Il a fait ça. Essaye de faire la même chose avec ce que tu penses, toi, actuellement, des trucs. Tu n'y arriveras pas. Parce que tu n'as pas cette écriture, ce cœur dans la plume, et dans l'encre où, de temps en temps, il plantait sûrement la plume dans le sang. Il écrivait en rouge, mais ça, on n'a pas besoin de le savoir. C'est moi qui invente, en ce moment. Mais peut-être que je n'invente pas tellement que ça. C'est peut-être vrai. Le style Baudelaire, c'est l'encre écrite qui est le sang écrit.
Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre et mon sein chacun s'est meurtri tour à tour et fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. La blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes devant mes grandes attitudes. J'ai l'air d'en prendre. plus fier monument consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants. Clartés éternelles.
Il y a quelques années, dans l'Eure, dans le département de l'Eure, je louais une petite maison le samedi pour aller faire un petit tour. Et un jour, au bas d'un sapin énorme, j'ai trouvé un hibou, un petit hibou comme ça. Il était jeune, mais il était déjà comme ça. Hein. Et alors je l'ai pris, c'était fantastique. Je l'ai porté à la maison, et puis dans la nuit, je l'ai gardé sur le lit, il a marché, ça. Il est venu s'endormir ici, là, comme ça. C'était extraordinaire. Et alors j'avais un copain qui était vétérinaire, et je lui ai dit, comment ça se fait ça que... Il me dit, tu sais, la mère, elle a dû trouver qu'il n'était pas fini, alors elle l'a foutu dehors de son nid, quoi. J'ai dit, non, ici, on ne fait pas ça, les femmes, elles ne font pas ça. Hein. Oui. Et alors, voilà, alors je le gardais avec moi, comme ça, la nuit. Et j'avais une maison, un appartement à Paris, sur la frontière de Neuilly et de là, à la Porte Maillot, où il y a tous les grands trucs maintenant. À ce moment-là, il n'y avait que des clochards. C'était intéressant parce qu'ils étaient intelligents, les clochards. Puis ils étaient construits pas mal, quoi. Et comme moi, j'allais les voir avec eux. J'avais un gros chien. Puis alors, j'avais le hibou. J'allais avec eux voir le hibou. Ils regardaient ça, là. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Il a trouvé un hibou. Dit, t'as vu, ça, c'est cet oiseau de nuit? Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Et quelques années après, non, je l'ai gardé 4 mois. Il est mort, 4 mois, là, sur mon épaule, une nuit. Oh, c'était tragique. J'ai pleuré, vraiment. Vous imaginez bien combien j'ai pleuré. Et alors, j'avais fait 3 jours avant une chanson que j'ai gardée, la photocopie. C'est qui s'appelle Les copains de la nuit, c'est-à-dire Les copains de la nuit. Alors, une chanson pour à son honneur, quoi. Et alors, je l'ai mis dedans et je l' ai enterré. Au-dessous de l'endroit où sa mère l'avait foutu en l'air, Dixit, le vétérinaire, mais des fois il se trompe. Hein. Alors, Dixit, ça veut dire avait dit le vétérinaire. Non, parce que... après, je me plains qu'on dit marketing. Alors, quand j'apprends le latin, il faut que je traduise aussi, quoi. Voilà. Et alors, imaginez-vous que. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit là? Les copains de la farce. Oui. Alors, je l'ai mis dans le... Voilà, c'est ça. Dans le papier, et je l'ai enterré là, sous le sapin, où devait y avoir encore sa mère en haut qui faisait glou, 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 glou. Et je suis parti, et 4-5 jours après, je suis venu. J'ai gratté pour voir un peu, quoi. Vous savez ce que j'ai trouvé? Une plume. Et voilà.
Pour toi, Marius.
Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés. Ainsi que des dieux étrangers, dardant leur œil rouge, ils méditent. Sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique ou poussant le soleil oblique. Les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre d'une ombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons. Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague où s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souffle. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange, ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les fleurs en grâce moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, me voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci.
pendant que des mortels la multitude vive. Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servie. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée. Surgir du fond des eaux, le regret souriant. Le soleil moribond s'endormit sous une nage. Et comme un long linceul traînant à l'horizon. Entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Sur 89.4 FM et www.fédération-anarchiste.org. Mais me dit-on, maintenant il faut vivre avec son temps, radio-libertaire.net. Vous écoutez le Ferry Club, c'est le deuxième rendez-vous de cette émission, donc je vais représenter très rapidement. Le Ferry Club, c'est une émission consacrée à Léo Ferré, à l'œuvre de Léo Ferré, à tout ce qui peut être fait aussi autour de l'œuvre de Léo Ferré, mais principalement à son œuvre et puis à Léo, parce que bah, malgré tout, peut-être l'aurez-vous remarqué, on n'en entend plus beaucoup parler du père Léo, hein, par-ci par-là, peut-être parfois, ceux qui l'aiment encore, et qui continueront de l'aimer, mais ben, ça se raréfie. Hein. Donc voilà, le Ferry Club, c'est aussi, c'est avant tout, hein, pour mettre en avant l'œuvre de Léo Ferré, et puis pour se différencier un tout petit peu de la bande sans fin de Radio Libertaire, qui est très fournie en Léo Ferré. Eh bien, je vous apporterai de temps en temps quelques petites choses, comme les textes que je vous ai lus précédemment. Et avant de passer à la suite de l'émission, je précise simplement que pour être membre du Ferry Club, c'est très facile. Hein. Il suffit de se brancher sur le 89.4 FM le mercredi entre 16h et 17h. Vous êtes d'office membre du Ferry Club. Vous pouvez aussi aller cliquer sur le lien pour écouter via le streaming, comme on dit maintenant. Et vous pouvez aussi être membre du Ferry Club quand vous voulez. Il suffit d'aller sur missnight.blogspot.com, le blog de l'émission et de l'autre émission qui s'appelle Nuit Noire. Et vous pouvez, simplement en cliquant sur le téléchargement, écouter l'émission et devenir de ce fait-là membre du Ferry Club. Alors, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'enorgueillir de cette appartenance, parce que premièrement, les appartenances, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, le Ferry Club commence à 16h ou à l'heure que vous voulez, mais ça dure une heure. Ensuite, le club est dissous et rassurez-vous, il se reforme tous les mercredis entre 16h et 17h. Donc c'est très simple d'être membre du Ferry Club. Petite rubrique dans cette émission qui s'appelle « À part ça, Léo ». Eh oui, parce qu'il n'y a pas que la musique, hein, il n'y a pas que la poésie, il n'y a pas que tout ça, il y a d'autres choses autour de nous. « À part ça, Léo », pour parler un petit peu du reste. Le premier, alors cette semaine, il y a deux à part ça, Léo. Le premier, c'est très simple, c'est mardi prochain, 14h, Bastille, manifestation contre la régression sociale pour laquelle les Français, me dit-on, ont voté. Ouais, majoritairement au premier tour, ils ont voté pour la régression sociale. Truc de fou, hein. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Tant que les élections existeront, ouais, il y a de grandes chances, malheureusement, que... des partis, là je parlais de régression, mais parfois rétrograde, très extrêmement rétrograde, eh bien, se serviront de ce marche-pied pour accéder à, pour faire aboutir leur vue. Hein. C'est atroce, mais c'est comme ça. Mardi prochain, à partir de 14h, place de la Bastille, en direction de la place de l'Italie, place d'Italie. Manifestation contre ces réformes, hein, on appelle ça des réformes. Oui, ça c'est une manière polie et journalistique d'appeler la régression sociale. Donc rendez-vous toutes et tous, bien entendu, à partir de 14h la semaine prochaine, dans la rue, bien évidemment. Le deuxième à part ça cette semaine, c'est pour vous parler d'une pièce de théâtre qui se joue depuis quelque temps et jusqu'au 9 janvier au Théâtre de l'Essaillon à Paris. Une pièce de théâtre mise en scène par M. Gilbert Pontet et interprétée par Malika Johani qui s'intitule « De Pékin à Lampedusa ». Je vais vous lire le petit texte qui est donné par la compagnie La Birba qui donc produit cette œuvre. De Pékin à Lampedusa. Samia Yousouf Omar est née en 1991, l'année où la guerre civile a éclaté en Somalie après la chute du président Siad Barre. En 2007, l'adolescente, âgée de 16 ans, doit arrêter sa scolarité à la mort de son père, tué en pleine rue de Mogadiscio. Elle s'occupe alors de ses 5 frères et sœurs et permet à sa mère de gérer la petite épicerie familiale. À la suite de ce drame, la jeune fille trouve refuge dans l'athlétisme. Au prix d'énormes sacrifices, elle réussit à intégrer l'équipe d'athlétisme qui représentera la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin. Aux éliminatoires du 200 mètres, elle terminera loin derrière les championnes, mais pour elle, c'est une victoire. Elle retourne à Mogadiscio, heureuse. C'était une expérience merveilleuse de défiler sous les couleurs de mon pays, la Somalie, et aux côtés des plus grands athlètes du monde. Un moment magique, je me suis sentie importante. Oubliée, méprisée par les autorités de son pays qui l'empêchent de s'entraîner, elle décide de fuir et de tenter le grand voyage, entre guillemets, vers l'Europe. Son rêve, deux points, participer aux Jeux Olympiques de 2012. Elle n'atteindra jamais les côtes italiennes. Elle meurt en 2012 dans un canot pneumatique en Méditerranée. C'est une pièce poignante que j'ai eu la chance de voir la semaine dernière, magnifiquement interprétée par Malika, avec une voix formidable, sublime, qui utilise tout autant sa diction que son chant. Vraiment une très belle pièce que je vous recommande pleinement, et ce d'autant si vous êtes sensible à ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants, à la cause de ce que l'on appelle les migrants, mais qui sont, avant d'être quelques dénominations que ce soit, qui sont des individus, des êtres vivants. Ça se joue jusqu'au 9 janvier, les lundis et mardis soirs, uniquement les lundis et mardis soirs, à 19h45, au Théâtre de l'Essaillon, qui se trouve rue Pierre-Houlard, dans le 4e arrondissement de Paris. Et je vous invite toutes et tous à vous y rendre. Vraiment, c'est une très très belle pièce. Le Ferry Club, c'est bientôt la fin. Allez, la dernière ligne droite. Léo, Charles Baudelaire, on termine ainsi.
La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs bien loin d'ici, trop tard, jamais, peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Alors maintenant, il faudrait que je vous raconte une histoire. C'est la vérité. Les gens ne savent pas. Vous savez parce qu'on passe à côté des choses. Et les choses vraies s'ennuient des gens qui sont installés, vous savez, dans les
prix littéraire, dans les académies, dans les trucs comme ça. Je vais vous dire une chose, parce que Baudelaire m'a indiqué ça, et il m'a fait... il m'a dit, je cherche mon truc, parce que ça, c'est difficile. Voilà, ça arrive. Et il m'a dit, tu devrais chanter ça. Et puis, il m'a fait connaître une femme extraordinaire, sur tous les plans. Au début, c'était extraordinaire. On ne pouvait pas savoir ce que c'était, cette femme. Ah! Et puis, à la fin, tu vas voir. Les métamorphoses du vampire. Mais je voudrais vous dire avant que Baudelaire a écrit Les Fleurs du Mal en 1857. Trois mois après, au mois d'août 1857, il y avait eu un jugement qui a expurgé, remarquez bien le nom, hein, expurgé le livre de poésie, de six poésies vraisemblablement cochonnes, n'est-ce pas? Hein, cochonnes. Et en 1861, sont parues Les Fleurs du Mal, expurgées. Eh bien, il y a une chose formidable qu'il faut que vous sachiez. Puis racontez-la aux gens qui... On connaît des tas de cyclistes, des types qui font les courses en auto, tout ça. On peut leur raconter aussi l'histoire de Baudelaire, c'est intéressant, ça, non? Bon. Et alors, imaginez-vous que... attendez, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que, oui, forcément, le... Oui. Ah, voilà. Le jugement de 1857 a été, après l'appel, je suppose, là, cassé. Eh oui, vous savez en quelle année? En 1949. Vous comprenez? Les juges, ils font peut-être des cochonneries chez eux, mais ils n'aiment pas les cochonneries. Enfin, ce qu'ils prétendent être la cochonnerie, quoi. C'est dégueulasse. Et il y a deux ans, paraissait chaque semaine un opuscule qui s'appelait Les Grands Écrivains. Il y avait Balzac, Colette, j'en ai ajouté quelques-uns. Et un jour est paru Baudelaire, cinq mois après ou six mois. Avec, alors il y avait un opuscule qui racontait la vie. Pour Balzac, il y avait Père Goriot. Pour les écrivains, il y avait toujours un petit bouquin à accrocher, vous savez. Ça se vendait le jour avec François et tout ça, quoi. Hein, bon, le samedi, quoi. Et alors, imaginez-vous que j'ai pris Les Fleurs du Mal. J'ai cherché, moi. Forcément, ça m'intéresse. J'ai cherché les poésies cochonnes. Hein? Eh bien, elles n'y sont pas. Formidable. Et il faut que vous sachiez aussi que ces éditions, tout ça, ce service pour la littérature, a été sous l'égide de l'Académie Goncourt. Voilà. Les Métamorphoses du Vampire. Femme cependant dans sa bouche de fraise en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise et pétrissant ses seins sur le fer de son busc laissait couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi j'ai la lèvre humide et je sais la science de père profond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux du rire des enfants. Ouais. En place pour qui me voit nu et sans voile, la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Je suis, mon cher savant, si torte aux voluptés, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, lorsque j'abandonne aux morsures mon buste. Timide et libertine et fragile et robuste que sur ces matelas qui se pâment des mois les anges impuissants se damneraient pour moi. Ouais. Quand intelue de mes os suçait toute la moelle et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre au flanc gluant, toute pleine de pus. Je fermais mes deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang. Tremblaient confusément des débris de squelettes qui de même rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une traîne de fer que balance le vent pendant les nuits d'hiver. Hey !
La servante qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, et quand octobre souffle et mondeur des vieux arbres son vent mélancolique alentour de leur marbre.
Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font, chaudement dans leurs draps, tandis que, dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelette gelé, travaillé par le ver, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver.
Et le siècle coulé sans camille ni famille remplace les à leur gris.
Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir calme, dans le fauteuil, je la voyais s'asseoir, si par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapie en un coin de ma chambre grave.
Et venant du fond de son lit éternel, couvait l'enfant grandi de son œil maternel. Que pourrais-je voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse.
C'était le Fairy Club numéro 2. Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Et à la semaine prochaine.
Charles Baudelaire, L'étranger.
Homme énigmatique, dis, ton père, ta mère.
ta sœur ou ton frère.
Je n'ai ni père ni mère, ni sœur ni frère.
Tes amis,
vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
Ta patrie,
j'ignore sous quelle latitude elle est située.
La beauté,
je l'aimerais volontiers, déesse immortelle.
L'or, je le hais comme vous haïssez-tu.
Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?
J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.